nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachés à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Liu Yan, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Canal Académie, la radio sur Internet des 5 académies de l'Institut de France. Vous avez traduit en chinois le livre de Pierre-Jean Rémy de l'Académie française, Le plus grand peintre vivant est mort, un roman publié en janvier 2007 au Seuil et qui a été publié en Chine en 2008. Cet ouvrage a reçu un prix, celui du meilleur roman étranger, décerné par des critiques, des éditeurs, des universitaires. Citons l'Académie des sciences sociales de Chine et l'Université de Pékin parmi les principaux acteurs de ce jury. Les années précédentes, Jean-Marie Le Clézio et Mondiano ont été récompensés. Liu Yan, pouvez-vous nous présenter le cercle des écrivains qui font partie de ce jury ?
C'est un prix qui est établi surtout depuis l'année 2002. C'est-à-dire que c'est le premier prix qu'on distribue aux écrivains étrangers. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, c'est le premier prix que le lecteur chinois distribue aux romanciers étrangers.
C'est un jury d'une vingtaine de personnes ou davantage ?
Il y a deux parties. Première partie, c'est le jury, on dit, de général. Ce sont des spécialistes de la littérature étrangère, mais en général, c'est eux qui choisissent les œuvres. Et puis, il y a un membre du jury de la littérature française. Il y a 5 membres de jury avec un président, c'est-à-dire ensemble 6 personnes qui décident le lauréat, le nom de lauréat.
Et ce sont des écrivains ?
Ce sont plutôt les chercheurs. Ce sont des chercheurs très connus en Chine de la littérature française. Par exemple, le président est Wu Yuetian, qui est le président de l'Association de la recherche de la littérature française en Chine. Et puis, il y a aussi le secrétaire général de cette association. Il y a des professeurs de l'université de Pékin et aussi de langue étrangère.
La littérature étrangère en Chine est accueillie depuis longtemps, je veux dire.
Il a accueilli en Chine depuis plus d'un siècle. Le premier roman français qui a été traduit en chinois, c'est La Dame aux Camélias.
Oui.
Le livre a été paru en 1848 en France et on l'a traduit en chinois en 1895. Et il y a une histoire très intéressante. En effet, le traducteur est un romancier lui-même, mais oui, il ne comprend pas le français. Oui, c'est très gênant. Et un jour, il a un ami qui est rentré de la France et qui lui a raconté cette histoire. Il a été ému par cette histoire et a décidé de le traduire. Mais en réalité, il a réécrit cette histoire en chinois traditionnel, c'est-à-dire presque 100 paragraphes et avec très peu de virgules et points et avec une langue, c'est une prose mais rythmée. Le livre a connu un succès incroyable en Chine. Il a laissé une influence au moins pendant 30 ans pour la lecture, pour les écritures chinoises.
Un roman réécrit qui a été un vrai succès en Chine, en langue chinoise donc aussi.
Absolument, et même il y a même une école en Chine, on dit que c'est une école qui s'appelle École des papillons et des canards mandarins. C'est-à-dire, il n'écrit que des histoires d'amour, mais tristes, mélancoliques, qui finissent toujours mal.
Alors ça, c'était...
Oui, c'est...
Les débuts de la littérature étrangère en Chine.
Parce que c'est ce début qui fait le Chinois tout d'un coup ouvre les yeux sur la littérature étrangère, mais en même temps aussi sur la vie occidentale. Parce qu'à ce moment-là, la Chine est encore à la dynastie Qing. Il n'y a que le mariage arrangé et... Amour, c'est un mot vraiment qui n'existe que dans la littérature, que dans le rêve. Et tout d'un coup, les jeunes, surtout ce sont des jeunes chinois qui voient le fruit d'amour, l'espoir et vraiment leur avenir dans ce
roman.
Aussi la liberté.
Et aussi la liberté. Mmh. Quels sont les autres auteurs français connus du grand public chinois parmi les classiques?
Parmi les classiques, je crois le plus connu, il y a Rousseau, il y a Standard, par exemple son livre Le Rouge et le Noir. C'est le livre le plus traduit et aussi le plus vendu en Chine parmi toute la littérature étrangère. Jusqu'à maintenant, il existe 12 versions de traduction de Rouge et le Noir. Je crois qu'il va continuer à avoir le 13e, 14e.
Ah oui, c'est vraiment un best-seller là.
Absolument. Et aussi, il y a les Trois Mousquetaires et bien sûr Hugo et Romain Rolland. Et ce sont tous des... Bien sûr, il ne faut pas oublier Balzac, qui a été traduit par... Son œuvre complète a été traduite par l'un des traducteurs le plus important et aussi le meilleur traducteur chinois qui s'appelle Fu Lei. Et maintenant, l'ambassade de France en Chine a une base de données des traductions qui s'appelle la Fondation Fu Lei.
Alors, comment situer donc le cercle des écrivains qui décernent ce meilleur roman étranger par rapport à l'association des écrivains chinois? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent?
C'est différent, mais il y a des points communs.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a certains critiques qui sont aussi membres de l'association des écrivains. Parce que... En dehors de la traduction, la plupart de spécialistes de la littérature étrangère écrivent eux-mêmes aussi.
Et vous avez la présidente de l'association des écrivains chinois, Ting Ning, qui est donc une grande écrivain. Vous l'avez traduit récemment?
Je l'ai traduit il y a 4 ans.
Oui.
Et en plus, c'est le seul livre que j'ai traduit du chinois en français. J'ai traduit avec une Française et Prune Cornet.
Et ça s'appelle La 12e nuit.
Oui.
Et on peut trouver donc le livre aux éditions Bleu de Chine. Et ce sont 5 nouvelles.
Oui, c'est un
recueil de nouvelles traduites et annotées par Prune Cornet et en collaboration avec vous.
L'association des écrivains chinois vont collaborer avec l'ambassade de France en Chine, une visite officielle des écrivains chinois en France. Et je crois que la fête sera lieu la fin de cette année.
Donc, une véritable collaboration, il y a des prix, il y a des rencontres. Ça fait longtemps qu'il y a ce genre de rencontres, d'échanges?
Il y en a toujours, mais cette fois-ci, l'ambassade de Chine essaie de faire venir 12 écrivains chinois. Et premièrement, c'est beaucoup. Avant, c'est toujours quelques écrivains et qui est invité par l'université et qui n'est pas aussi nombreux. Et aussi, c'est une rencontre toujours sans suite. Mais cette fois-ci, on essaie de faire une série de rencontres, c'est-à-dire cette année, ce sera en France, mais l'année prochaine, et ce sera l'association des écrivains chinois, peut-être, invite aussi 12 écrivains français qui vont en Chine pour une rencontre mutuelle.
Il y a un thème de décider ou c'est simplement une rencontre pour parler ou présenter les œuvres des écrivains, ou il y a un thème de l'année?
Le thème, si, il y a un thème assez très précis. Et cette année, ce sera... On n'a pas encore...
C'est pas encore complètement officiel.
Mais le thème, ce sera le pont et la fenêtre. Ça veut dire la littérature est comme un pont qui va à l'autre rive ou une fenêtre qui vous fera une autre vue.
Alors, est-ce que c'est un prix qui a beaucoup d'impact en Chine, le prix du meilleur roman étranger?
On dit que maintenant, il a de plus en plus d'influence pour le lecteur. Et surtout cette année, et avant c'est plutôt entre les critiques et les littéraires et les universitaires. Mais maintenant, parce que vraiment, c'est un prix qui est très sérieux et qui est reconnu par de plus en plus de lecteurs.
Il y a un écho du public.
Auprès du public, cette année, je crois, c'est en 2008, pour la cérémonie, il y a à peu près 60 de journalistes ou les presses chinoises sont présents. Et pour un prix littéraire, on peut dire que c'est un événement.
Vous nous parliez de la Dame aux Camélias. Quels sont les auteurs français aujourd'hui connus, contemporains, on va dire, français connus en Chine?
Contemporains, bien sûr, Monsieur Le Clézio, c'est un écrivain qui est beaucoup adoré par les Chinois. Je crois presque toutes ses œuvres, jusqu'à maintenant, toutes ses œuvres ont été traduites en langue chinoise. Sinon, il y a aussi Modiano, et qui est aussi beaucoup apprécié par les Chinois pour les écrivains de best-sellers.
Oui.
Et c'est comme en France.
Oui.
Et on suit vraiment la même chose qu'en France. C'est Marc Lévy, Amélie Nothomb.
L'engouement du public est le même.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Je crois, premièrement, c'est toujours cet intérêt pour savoir, c'est un intérêt, une curiosité de savoir qu'est-ce que se passe en France et en littérature française. Parce que la France est considérée toujours comme un pays d'art de la littérature pour les Chinois. Et de l'autre côté, je crois, peut-être pour le roman best-seller, et il a toujours des, pour l'histoire même et pour le sujet et la façon d'écrire, il y a des points communs.
Revenons à l'ouvrage de Pierre-Jean Rémy, le plus grand peintre vivant et mort. Alors c'est l'histoire, c'est le roman d'un peintre fort connu qui est Balthus, mais qui est là romancé et qui s'appelle ici Matthäus, qui est un peintre effectivement majeur du XXe siècle. Et le narrateur qui l'a connu raconte sa vie par bribes.
Oui.
Ça commence par son enterrement, etc. Puis on va rentrer dans sa vie, son parcours, ses rencontres, ses amours, sa mère, qui l'a élevé, comme son beau-père. Enfin, c'est toute une histoire, justement. Quelles ont été vos impressions, Liu Yan, à cette première lecture, quand vous avez découvert ce roman? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous?
Juste avant de lire ce roman, je viens de finir une traduction sur la bibliographie de Balthus.
Et ça tombait bien.
À ce moment-là, avant de lecture, je me disais que je connais presque toute la vie de Balthus et je ne m'attendais pas vraiment à une surprise. Mais ce livre m'a complètement surpris. Premièrement, c'est la fluidité de l'écriture. Et l'écrivain Pierre-Jean Rémy écrit d'une langue très fluide, pleine d'humour et pleine tendresse en même temps.
C'est ça qui vous a séduit dans son écriture?
Et en plus, et je crois que c'est aussi l'imagination. Et il a imaginé une jeunesse de Balthus plus riche que la vie d'une vraie vie de Balthus. C'est une jeunesse qui commence par Berlin et une enfance commence par Berlin, une jeunesse commence par Paris, à travers Strasbourg et Rome, Venise. Et on voit ici vraiment toute l'histoire d'art d'Europe se déploie dans le livre.
Surtout sur ces Balthus enfants aussi qui parlent, enfin, c'est le narrateur, hein, ces rencontres. Alors ça, c'est ce morceau de l'histoire culturelle européenne, en fait, qui vous a séduite, qui vous a impressionnée. L'écriture aussi de Pierre-Jean Rémy. Vous avez traduit d'autres livres de Pierre-Jean Rémy
Je ne l'ai pas fait, malheureusement.
Pas encore.
Il
en a d'autres de traduits en chinois?
Oui, et il a le Cercle Palais d'été qui a été traduit il y a 5 ou 6 ans.
Comment sont perçus justement les romans de Pierre-Jean Rémy, qui ont pour cadre la Chine où il a passé de longues années? Comment sont-ils perçus par les lecteurs chinois?
Premièrement, les Chinois les connaissent comme académiciens.
Oui. Et c'est connu l'Académie française à Pékin?
Très connu. C'est quand même, premièrement, c'est la langue française, le critère de langue française du monde entier. L'Académie française est très connue en Chine. Et pour son livre, c'est quelqu'un qui connaît bien la Chine, qui était aimé aussi par les Chinois. En plus, son livre, c'est-à-dire, c'est pas comme le livre qui est difficile à lire, son livre est toujours...
C'était accessible.
C'était très, très accessible par la plupart des lecteur chinois et en plus, mais aussi savant. C'est quelqu'un qui a trouvé un équilibre entre intelligence mais aussi accessibilité de lecture.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour ce travail de traduction? Voilà, comment on se dépatouille d'un livre pareil où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de personnages, il y a effectivement beaucoup de subtilité et beaucoup d'ironie, il y a des choses assez crues et aussi cruelles dans la façon de peindre les personnages que Mathéus, le peintre Mathéus, rencontre, en particulier au début. Le début, c'est très, très fort, hein, l'enterrement du oui. peintre. Il y a beaucoup d'ironie dans le début du roman. Alors, comment on traduit ça en chinois? Comment on fait passer ces idées-là?
Pour la traduction, bien sûr, j'ai rencontré plein de difficultés et plein de problèmes. Le premier, c'est donner un aspect de... C'est le contexte littéraire. Parce que la traduction, ce n'est pas mot à mot. Il faut, comme ce livre qui raconte une histoire d'art au début du XXe siècle, l'époque la plus riche de l'histoire d'art en Europe. Et il y a une grande richesse pour raconter cette...
Alors, comment on fait pour traduire tous ces détails, toute cette richesse? Comment vous avez fait? Vous avez réécrit
Premièrement, c'est le travail de recherche, c'est-à-dire pour le nom et pour le lieu. Et vous avez parlé tout à l'heure, le début du livre, commence par l'enterrement. Toutes les personnes, c'est les gens qui connaissent un peu la vie de Pathus ou un peu la mort de Pathus, connaître les images, l'existence réelle de ces personnages. Mais à ce moment-là, il faut partir avec un travail de recherche. Ce n'est pas parti d'une pure imagination, c'est le mélange d'imagination mais de documentation.
Il y a donc un travail
de recherche. Par exemple, ici, le poète Rilke, qui est maintenant qui est dans le livre, qui s'appelle Martin Aschenbach. Mathéus a aussi un frère qui est écrivain, qui est peintre, qui s'appelle Jean Volkanski. Dans la réalité, bien sûr, il s'appelle Pierre Golovski. Et puis, il y a aussi, comme les amis de Pathus et Georges Ravel, on reconnaît très vite le visage de Georges Bataille. Et Jean-Georges Javon dans le livre est en réalité Pierre-Jean Jouve. Il y a aussi des mécènes comme Josiane Voisenon, qui est Madame de Noailles. Dans ce livre, il y a certains personnages qui apparaissent de son vrai nom, par exemple comme Gide. Mais il y a aussi d'autres qui ont changé le nom, mais que Pierre Jérémie a gardé leurs œuvres ou le trace de leur écriture.
On les
écriture.
Reconnaît.
Voilà, on reconnaît tout de suite.
On reconnaît.
Voilà, c'est premièrement le respect d'essayer de représenter vraiment l'image de cette époque.
C'était ça la plus grande difficulté?
Ça, c'est une partie de difficulté, mais deuxième, ce sera beaucoup, pour moi, c'est plus difficile ou plus subtil, c'est comment donner le style, de donner le style à son écriture. Dans le livre français, on voit que la langue, c'est une langue qui est très fluide, mais plein d'humour, avec ironie. Je crois que l'ironie, c'est une chose la plus difficile à traduire.
Vous avez un exemple d'un moment difficile de traduction?
Je me souviens encore des mots. Par exemple, dans le livre français.
En version française,
En version française. Son ami Jean-Georges Javon, qui a écrit un livre qui s'appelle « La peine capitale ». Mais en effet, c'est Pierre-Jean Jouve qui a écrit « La scène capitale ». Et aussi, il y a par rapport à Bataille, et Bataille qu'il a écrit Histoire de l'œil, et dans la version française qui s'appelle L'histoire du deuil. C'est un jeu de mots que, malheureusement, que je n'arrive pas à traduire. C'est perdu.
Mais effectivement, ça doit être colossal comme travail, parce que là, il y a une multitude d'œuvres, de noms, justement, qu'on découvre facilement. Mais effectivement, pour les traduire, vu déjà comment on nomme en chinois le nom des gens. Oui. Là, je ne sais pas comment vous avez fait.
Je crois qu'il y a presque 200 personnes qui apparaissent l'un et l'autre dans ce livre.
Il y a des passages particuliers qui vous ont beaucoup ému dans ce livre ?
Le passage, sa deuxième fugue de Matthäus en Auvergne, ça m'a beaucoup ému. Lui aussi, son premier voyage avec son jeune amoureuse, bien sûr, qui devient sa première femme en Provence, aussi m'a beaucoup ému. Le premier voyage de noces de Matthäus qui a lieu en Provence, je crois que c'est un endroit que l'auteur, Pierre-Jean-Rémy, connaît très bien. Il a une maison ici. Dans cette fugue, on voit vraiment que le paysage qu'il a écrit dans le livre l'a beaucoup ému lui-même. Et pour la fugue de jeune Matthäus, ils sont allés en Auvergne avec son frère. Et si on connaît un peu la biographie de Pierre-Jean-Rémy, on voit qu'il est auvergnat. C'est-à-dire qu'il a vraiment mis sa propre vie dans son livre.
Au début, surtout, on comprend tout ça puisque ça se passe à Chélade. Est-ce que la littérature étrangère en Chine subit des problèmes de censure ?
Je crois maintenant que la littérature, il y a vraiment, on peut dire qu'il n'y a presque pas de censure et on peut faire presque librement et il n'y a plus de censure de contenu, il n'y a plus de censure pour... S'il existe un peu, c'est peut-être pour le point de vue de politique. Ça peut choquer peut-être les lecteurs chinois.
Autrement, d'un point de vue moral, culturel, il n'y a pas de choses qui peuvent choquer le lecteur chinois particulièrement.
Je crois maintenant pour ce côté-là, moralement, et on est, pour la publication, on est déjà très ouverte.
Donc, est-ce que Pierre-Jean-Rémy a eu des problèmes justement avec ses livres traduits en chinois ?
Non, je crois pas.
Est-ce que vous savez, Liu Yan, quels sont les écrivains chinois, cette fois, que Pierre-Jean-Rémy affectionne particulièrement ?
Ah, je crois qu'il lit beaucoup la littérature chinoise et il a une grande connaissance. Parmi les écrivains chinois, il adore un écrivain qui s'appelle Lao She, qui a écrit 4 générations sous un même toit et de 4 volumes. Il y a aussi des écrivains comme Lu Xun de même époque. Et pour les contemporains, il y a des écrivains comme Jia Pinghua, qui a écrit Le Capital déchu, qui a eu le prix féminin. Même le prix féminin en France, c'est aussi, je crois, c'est l'un de ses écrivains préférés.
Pour finir, quel est le nom chinois de Pierre-Jean-Rémy ? En Chine, comment est-ce qu'on appelle Pierre-Jean-Rémy ?
Il a un nom très joli, et Yang He Ming, ça veut dire le champ de grue sur le peuplier.
Il est fier de ce nom ?
Oui, il est très fier de ce nom, et je vous raconte aussi une petite anecdote. C'est un jour... Dans un dîner officiel pendant les années croisées, il y a Monsieur Chirac et tous les diplomates importants et de deux pays. Et Pierre-Jean-Rémy a dit fièrement qu'il a un nom chinois qui c'est le champ du Gru sur le peuplier. Et pendant tout le dîner, et Monsieur Chirac l'appelle Monsieur Gru.
Vous avez traduit Jean Cocteau aussi, Liu Yan. Quels sont vos prochains travaux de traduction ?
Oui, en dehors de Le plus grand peintre vivant est mort, et j'ai traduit à Jean Cocteau. J'ai traduit aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une biographie de Balthus et qui s'appelle Balthus à contre-courant. Et jusqu'à maintenant, et je me permets de vous dire que je n'ai pas d'autres projets pour la traduction. Je vais essayer de me concentrer pour l'écriture.
Ah, en français ou en chinois ?
En chinois.
En chinois ? Ben, bonne chance sur ces beaux projets littéraires. Liu Yan, merci beaucoup d'être venue à Canal Academy nous parler de la traduction du plus grand peintre vivant et mort, un des romans de Pierre-Jean-Rémy de l'Académie française, que vous avez traduit en chinois. Et ce roman a reçu le prix du meilleur roman étranger en Chine en 2008. Thank you.
Thank you.